Messieurs, son histoire de la leçon biblique 3, prophète. Symbole copyright 2024 Dave Messieurson et Ted Reel de Brent. Il s'agit de la troisième conférence sur six du Dr. Dave Messieurson sur le scénario de la Bible. Dans cette troisième conférence, il abordera les prophètes et les cinq thèmes majeurs, les thèmes de la terre, de l'alliance, du temple, du peuple de Dieu et de la royauté. Dr. Dave Messieurson. Très bien, nous avons parlé du scénario de la Bible, et j'ai suggéré que même si l'Ancien et le Nouveau Testament sont composés d'une diversité de types de livres et de genres littéraires écrits dans des buts différents et à des moments et des lieux différents, il existe un récit sous-jacent ou histoire sous-jacente qui unifie les livres, dont attestent les différents livres. Et encore une fois, je ne veux pas suggérer que chaque dernier verset de l'Ancien et du Nouveau Testament empiète directement ou se rapporte au scénario, mais plutôt suggérer que les documents dans leur ensemble et les mouvements majeurs, les thèmes majeurs et les objectifs majeurs des livres s'appuient et révèlent cette histoire. Et nous avons dit que l'histoire remonte au chapitre 1, 2 et 3 de la Genèse, le début de l'histoire ou le décor, où Dieu, en tant que créateur souverain de l'univers, crée l'humanité, crée son peuple, un peuple dans lequel il entrera. Dans une relation avec, une relation qui ressemble aux relations d'alliance que l'on trouve dans le reste de l'Ancien Testament. Dieu entre en relation avec son peuple. Il crée un environnement dans lequel ils peuvent vivre. Il leur donne la terre, la création comme un cadeau gracieux qu'ils doivent garder et garder. Il place l'humanité dans le jardin d'Éden, son sanctuaire, le lieu où Dieu habitera avec son peuple. Ils doivent le garder et le garder. Et l'humanité a reçu le mandat de représenter le règne de Dieu, de répandre le règne de Dieu, de répandre sa gloire dans toute la création. Pourtant, nous avons vu que l'humanité n'y parvient pas et qu'à cause du péché, Adam et Ève sont exilés du pays, de sorte que le reste de la Bible, à commencer par le chapitre 4 de Genèse et les suivants, va raconter comment Dieu restaurera ce pays. Comment les Genèses 1 et 2 seront-ils restaurés? Mais nous avons également vu que le principal moyen utilisé par Dieu pour restaurer son intention pour toute la création était de choisir la nation d'Israël. Alors Dieu appelle Abraham. Et encore une fois, tous ces thèmes dominants selon lesquels Dieu va maintenant créer un peuple, il va lui donner la terre comme lieu de bénédiction, et il va aussi habiter avec eux sous la forme du temple. Il entre également dans une relation d'alliance par l'intermédiaire d'Abraham puis par l'intermédiaire de Moïse avec le peuple. Les gens doivent refléter la gloire de Dieu. Ils doivent refléter le règne de Dieu dans toute la création qui doit finalement se produire par l'intermédiaire d'un roi davidique qui régnera sur le peuple et, au nom du peuple, répandra le règne de Dieu dans toute la création. De manière générale, l'histoire de la Bible explique comment toute la création peut-elle devenir une demeure pour Dieu avec son peuple qu'il a créé. Et encore une fois, je veux me concentrer sur cette poignée de thèmes alors que nous passons du récit de la création à l'histoire d'Israël et maintenant aujourd'hui aux prophètes, car nous avons vu que l'histoire d'Israël ressemblait fondamentalement à celle d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. De même qu'Adam et Ève ont péché et n'ont pas réussi à respecter l'alliance et leur relation avec Dieu, de la même manière, Israël n'a pas réussi à respecter la relation d'alliance avec Dieu et ils ont également été exilés du pays que Dieu leur avait donné et de la présence de Dieu. Donc toujours sans conclusion et comment toute la création peut-elle devenir la demeure de Dieu avec son peuple? Ainsi, ces cinq thèmes principaux que nous retraçons à travers la création puis dans l'histoire d'Israël et qui se terminent tous deux par un échec, nous voulons maintenant les retracer dans les prophètes pour démontrer comment les prophètes sont unis dans leur attente que Dieu accomplisse son intention de la Genèse 1 et 2 pour l'humanité et pour toute la création. Maintenant, les thèmes principaux que nous voulons examiner, le groupe de thèmes, sont le peuple de Dieu, l'alliance que Dieu établit avec lui, la terre et la création que Dieu leur donne comme son don gracieux, le temple, le jardin, le lieu de la demeure et de la présence de Dieu auprès de son peuple, puis aussi de la royauté. À cause du péché de l'humanité dans Genèse chapitre 3, à partir de ce moment-là, l'humanité s'arroge sa royauté et gouverne et abuse de cette règle en ignorant le Créateur qu'elle doit représenter. De plus, la Bible est claire, à cause du péché de l'humanité, Parce qu'Adam et Ève ont été tentés par Satan dans Genèse 1 et 2, maintenant le royaume devient, le monde devient le royaume de Satan et du mal. Encore une fois, l'histoire raconte comment Dieu va sauver cette situation. Comment Dieu sauvera-t-il le monde de la domination de Satan et de la façon dont l'humanité s'arroge-t-il sa domination sur la création, comment Dieu sauvera-t-il cela et étendra-t-il sa domination dans toute la création. Et encore une fois, faites de la création un lieu où l'humanité peut habiter et où Dieu peut habiter parmi eux avec eux, dans un lieu où le règne de Dieu s'étend sur toute la création et où Dieu est maintenant en relation d'alliance avec son peuple et en tant que ses représentants, il répandre sa gloire, la gloire de Dieu et le règne de Dieu se répandent dans toute la création. Comment cela devient-il une réalité ? Maintenant qu'Adam et Ève ont échoué, maintenant qu'Israël a échoué, les prophètes abordent alors essentiellement la situation d'Israël, l'exil imminent d'Israël ou Israël en exil à cause de son péché. Et ce que font ensuite les prophètes, c'est d'aborder cette perspective ou de brosser un tableau qui exprime la perspective d'une restauration au-delà de leur situation d'exil. Ainsi, Israël ira en exil ou est déjà en exil à cause de son péché, de son idolâtrie, parce qu'il a rompu l'alliance, un peu comme Adam et Ève l'ont fait dans les chapitres 1 et 2 de Genèse, mais maintenant les prophètes ont anticipé le moment où cela se produira. Être restauré. Rappelez-vous maintenant que ce à quoi nous devons prêter attention, c'est cette histoire de restauration sous deux facettes. Parce qu'Israël était le moyen utilisé par Dieu pour restaurer toute la création à partir de Genèse 1 et 2, et parce qu'Israël l'a également fait exploser, Dieu doit restaurer à la fois Israël et la création. La restauration d'Israël est le moyen par lequel Dieu restaurera toute la création. Donc, restaurer Israël, l'histoire d'Israël est la clé pour comprendre l'histoire de la relation de Dieu avec toute la création à partir de Genèse 1 et 2. Et nous verrons comment cela fonctionne dans la littérature prophétique. Mais ce que je veux faire alors que nous examinons brièvement les prophètes, c'est qu'au fur et à mesure que nous parcourons la littérature, je ne vais pas aborder chaque livre prophétique, mais plutôt aborder des pans importants de la littérature juste pour vous donner une idée. Sens de ce que je pense que l'on peut trouver dans une grande partie des autres textes prophétiques, et pour démontrer comment ces cinq thèmes qui commencent dans la création se frayent un chemin à travers l'histoire d'Israël, en commençant par Abraham, puis dans Moïse et l'histoire d'Israël, comment ces cinq thèmes émergent tous à nouveau dans l'attente prophétique que Dieu restaurera effectivement son intention pour toute la création et pour Israël également, en restaurant principalement Israël afin qu'à terme toute la création puisse être restaurée. Le premier thème que je souhaite aborder est donc la restauration du peuple de Dieu. C'est une question assez évidente tout au long du texte prophétique, et la plupart des textes prophétiques qui parlent d'Israël comme étant sur le point de partir en exil ou d'Israël en exil anticipent tous un moment où Dieu lui-même restaurera son peuple dans une relation avec lui-même. Ainsi, le peuple est considéré comme dispersé, à cause de l'exil, mais maintenant le texte prophétique anticipe un moment où le peuple de Dieu sera rassemblé pour former l'unique peuple de Dieu. Ainsi, par exemple, un texte comme Isaïe chapitre 60 fait clairement référence à la restauration du peuple de Dieu au-delà de l'exil. Le chapitre 60 commence ainsi, « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Car les ténèbres couvriront la terre, et les ténèbres épaisses couvriront les peuples. Mais l'Éternel se lèvera sur vous, et sa gloire apparaîtra sur vous. » Remarquez le thème de la lumière de Dieu, de sa gloire et de sa présence parmi le peuple. Puis le verset 3, « Les nations viendront à votre lumière, et les rois de l'éclat de ton aurore. Levez les yeux et regardez autour de vous. Ils se rassemblent tous. » En référence au peuple d'Israël, ils ont été dispersés à cause de l'exil. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers vous, à Jérusalem. Ton fils viendra de loin, et ta fille sera portée sur les bras de leur nourrice. Et vous pouvez en lire davantage dans Ésaïe chapitre 60 et ce sentiment de Dieu rassemblant son peuple dispersé par l'exil et le restaurant, recréant pour qu'il redevienne son peuple. un autre texte, et ce que je vais faire, c'est simplement lire et commenter un certain nombre de textes prophétiques, mais le chapitre 36 d'Ézéchiel et les versets 9 à 11. Encore une fois, remarquez le thème de la restauration du peuple de Dieu. Les gens, et remarquez comment cela relie cette restauration au scénario en cours que nous avons examiné jusqu'à présent. Chapitre 36 et 9 à 11. Voyez maintenant, je suis pour vous. Je me tournerai vers vous, et vous serez labourés et semés. Maintenant, écoutez ceci, et je multiplierai votre population, toute la maison d'Israël, tout cela. La ville sera habitée, le désert sera reconstruit, et je multiplierai sur vous les êtres humains et les animaux. Ils augmenteront et seront fécondes, et je vous ferai habiter comme autrefois, et je vous ferai plus de bien que jamais auparavant. Remarquez encore, en particulier dans les versets entre 10 et 11, ce langage de multiplication du peuple. Deux étant fécondes et croissants. Encore une fois, c'est le langage du mandat donné au peuple de Dieu, Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1, qu'ils seraient fécondes et se multiplieraient. Maintenant, une fois de plus, lorsque Dieu restaure son peuple en accomplissement de son intention de rendre l'humanité féconde et multipliée, cela devait être réalisé par Israël, l'histoire d'Israël. Maintenant, Dieu rétablit son peuple dans une situation où il sera féconde, où il le fera prospérer et le fera se multiplier et augmenter en nombre, comme c'était son intention initiale dans le récit de la création. Le chapitre suivant d'Ézéchiel, au chapitre 37, contient également une prophétie du retour du peuple d'exil, de la restauration du peuple d'exil. Ici, le prophète, Dieu communique à Ézéchiel à travers l'image d'os secs, ou de sortes d'os morts, qui se rassemblent maintenant et sont ressuscités et reçoivent la vie. Et ce sur quoi je veux me concentrer, remarquez, je vais commencer par les versets 7 à 10 du chapitre 37 d'Ézéchiel, mais je veux que vous prêtiez attention aux deux derniers versets. Ézéchiel a dit, « Alors j'ai prophétisé comme on m'avait ordonné. Et comme je l'avais prophétisé, soudain il y eut un bruit, un cliquetis, et les ossements qu'il avait vus traîner comme emblématiques de la mort d'Israël à cause de l'exil, à cause de la séparation d'avec la terre de bénédiction et le lieu de la demeure de Dieu. Maintenant, ces os se sont réunis, os contre os. J'ai regardé et il y avait des tendons dessus, et de la chair les avait recouverts, et de la peau les avait recouverts, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Alors il me dit, prophétise au souffle, prophétise, mortel, et dis au souffle, ainsi dit le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, au souffle, et souffle sur ces tués pour qu'ils vivent. J'ai prophétisé comme il me l'a ordonné, et le souffle est entré en eux, et ils ont vécu et se sont tenus debout, une vaste multitude. Non seulement l'idée d'une vaste multitude et d'un grand nombre suggère peut-être l'augmentation et la multiplication de Genèse 1, et 2, mais remarquez l'imagerie de Dieu insufflant la vie dans leur corps sans vie. Ainsi, vous avez ces os secs qui se soulèvent et ils prennent même de la chair et des tendons, mais il n'y avait pas de souffle pour leur donner la vie, tout comme c'était le cas dans le récit de la création où Dieu forme les êtres humains et forme Adam à partir de la poussière de la terre, mais doit néanmoins insuffler la vie à l'humanité. Donc une fois de plus, en fait, une nouvelle création dans Ézéchiel chapitre 37 alors que Dieu recrée ses êtres humains, tout comme Dieu recrée son peuple comme il l'a fait dans le récit de la création en donnant vie à des corps sans vie par son souffle. Juste pour vous donner un aperçu d'un autre texte prophétique ou d'un exemple tiré d'un autre texte prophétique, Zacharie chapitre 8 anticipe également la restauration du peuple de Dieu sorti de l'exil. Dans Zacharie chapitre 8, au verset 7 et 8, ainsi parle l'Éternel des armées, « Je sauverai mon peuple du pays de l'Orient et du pays de l'Ouest. Je les ramènerai vivre à Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu en fidélité et en justice. » De toute évidence, Zacharie anticipe également la restauration du peuple de Dieu où il deviendra son peuple dans une relation d'alliance. Notez que le thème du peuple de Dieu ne peut pas non plus être distingué et séparé du thème de l'Alliance. Alors, remarquez qu'une partie de l'anticipation de Zacharie sur la restauration est que Dieu, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, la formule d'Alliance que vous trouvez ailleurs dans l'Ancien Testament. Ainsi, une partie de l'attente prophétique reflétant l'intention de Dieu pour Israël et, en fin de compte, reflétant l'intention de Dieu pour la création et la restauration d'un peuple qui sera nombreux et qui sera créé et donné la vie en tant que peuple de Dieu et qui entrera dans une alliance. Relation avec Dieu lui-même. Cela anticipe donc le deuxième thème que je souhaite aborder, à savoir le thème de l'alliance. Nous avons vu dans les deux dernières conférences que l'alliance était la manière dominante par laquelle Dieu entrerait en relation avec son peuple. Elle a été empruntée, l'imagerie de l'alliance reflète les relations de suzeraineté ou les traités de suzeraineté de l'ancien Proche-Orient. Ainsi, Dieu est représenté comme le Créateur, le souverain de toutes choses, qui entre désormais en relation avec son peuple. Il les adopte ou le choisit comme son peuple et leur accordera désormais des bénédictions. Mais nous avons vu que la relation d'alliance et il y a un différent quant à savoir si Genèse 1 et 2 devraient être appelés une alliance, mais au moins tous les éléments de la relation d'alliance sont là. Et les relations d'alliance ultérieures que Dieu établit avec son peuple ressemblent beaucoup à sa relation avec Adam et Ève lors de la création. Mais l'alliance que nous avons vue avec Moïse n'a pas tant failli à l'alliance que le peuple n'a pas réussi à respecter la relation d'alliance, et c'est pourquoi ils ont été exilés du jardin d'Éden, du pays. De sorte que Dieu alors, à travers les prophètes, Dieu promet d'instituer une nouvelle alliance. Dieu établira à nouveau une nouvelle alliance avec son peuple qui ne faillira pas comme l'ancienne alliance l'a fait, ou mieux encore, comme le peuple l'a fait avec l'ancienne alliance. La nouvelle alliance que Dieu établira avec son peuple, et plusieurs textes prophétiques l'anticipent. Nous venons de lire Zacharie 8 et le verset 8, quand il dit « Je les ferai habiter dans le pays, son peuple, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu ». C'est au cœur de la formule d'alliance que l'on retrouve tout au long de l'Ancien Testament. Mais il existe d'autres textes de l'Ancien Testament qui anticipent clairement un moment où Dieu établira une nouvelle alliance avec son peuple dans le futur, lorsqu'il le restaurera. Ainsi par exemple dans Jérémie chapitre 31, qui est un peu le texte classique lié à la nouvelle alliance, d'autant plus que l'auteur utilise le mot « nouvelle alliance » pour décrire cette relation que Dieu va rétablir avec son peuple. Mais Jérémie chapitre 31 et versets 31 à 34, « Les jours viennent sûrement, dit l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec ses ancêtres, l'alliance mosaïque, lorsque je les ai pris par la main et les ai fait sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que j'étais leur mari, dit l'Éternel. » Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi en eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, remarquez la formule de l'alliance. Ils ne s'instruiront plus et ne se diront plus, non, Seigneur, car ils me connaîtront tout, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi, cela se produit à nouveau dans le contexte de Jérémie anticipant une époque où Israël serait restauré de l'exil et où Dieu entrerait, renouvelant maintenant sa relation d'alliance à travers une nouvelle alliance où la loi de Dieu est maintenant réellement écrite dans leur cœur. Cependant, un autre texte, qui anticipe également une nouvelle alliance, bien que là encore le langage du mot « alliance » ne soit pas utilisé, le langage de l'alliance est clairement présent à plusieurs endroits, et c'est le livre d'Ézéchiel, qui anticipe également une nouvelle alliance. Temps de restauration du peuple de Dieu, une restauration après l'exil. Ainsi par exemple, dans Ézéchiel chapitre 34 et verset 25, en anticipant cette restauration, Dieu dit à Ézéchiel, « Je conclurai avec eux, le peuple d'Israël, une alliance de paix et je bannirai les animaux sauvages du pays afin qu'ils puissent y vivre. La nature est dormée dans les bois en toute sécurité. » Mais remarquez l'anticipation d'une alliance, qui est reprise et décrite plus en détail plus tard. Donc, au chapitre 36, nous attendons toujours la restauration de son peuple par Dieu. Chapitre 36 et verset entre 25 et 26, je vais revenir en arrière et commencer par 24. Je vous retirerai de la nation. Voici donc le thème de la restauration du peuple de Dieu. Je vous retirerai des nations dispersées à cause de l'exil, je vous rassemblerai de tous les pays dans votre pays et je vous amènerai dans votre pays. Et voici le langage de la nouvelle alliance. Je ferai asperger sur toi de l'eau pure et tu seras purifié de tous tes péchés ou de toutes tes impuretés. Et de toutes tes idoles, je te purifierai. Je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau. Et j'ôterai de ton corps le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Chapitre 37 et versets entre 26 et 27, ma demeure sera avec eux, avec Israël, son peuple, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Remarquez encore la formule de l'alliance. Alors la nation saura que moi, l'Éternel, je sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera parmi eux pour toujours. Ainsi, la nouvelle alliance est le moyen par lequel Dieu s'attaquera finalement au péché d'Israël et finalement au péché du monde entier alors qu'il établit et recrée son peuple et entre dans une relation d'alliance avec lui, encore une fois, en accomplissement de son originalité. Intention pour l'humanité depuis la création. Ainsi, le principal moyen par lequel Dieu traitera avec son peuple et entrera en relation avec son peuple passe par l'établissement d'une nouvelle alliance, dans laquelle il purifiera son peuple du péché et le rétablira comme son peuple. Il sera leur Dieu. Ils seront à nouveau son peuple. Ce thème de l'alliance et aussi du peuple de Dieu est clairement lié au thème suivant, à savoir le thème de la terre. Nous avons déjà lu un texte comme Isaïe chapitre 60 et verset 4, ainsi que le passage de Zacharie 8, où Dieu ramènera le peuple au pays. Ainsi, le cœur de la restauration du peuple par Dieu est de le ramener à la terre, ce qui, nous l'avons dit, faisait partie de la promesse que Dieu a faite à Abraham, qui, nous l'avons dit, remonte à la création, la gracieuse provision de la terre par Dieu comme un lieu de bénédiction, un lieu où Dieu finirait par s'installer ou demeurer avec son peuple. Remarquez donc à quelle fréquence le retour au pays joue un rôle dans l'attente prophétique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un texte à regarder avant cela, dans Jérémie chapitre 4, que je veux que vous remarquiez en réfléchissant à ce motif de création, et il est important de comprendre que lorsque vous regardez la littérature prophétique et qu'elle parle du retour au pays, cela n'est pas seulement vu en relation avec Abraham et l'histoire d'Israël, mais cela le relie fréquemment à la création. En fait, l'exil d'Israël est vu comme un retour au chaos, une décréation, pour ainsi dire, un retour au chapitre 1, verset 1 d'avant la Genèse. Notez donc le chapitre 4 de Jérémie et les versets 23 à 26, et remarquez comment le langage est rédigé. Évocateur du chapitre 1 de Genèse, et la terre étant informe, vide et sans vie et en attente de fécondité et attendant d'être transformée en un environnement habitable pour les gens. Voilà donc la description de l'exil. Et encore une fois, remarquez les liens avec la décréation, le chaos et le retour à un état pré-créatif chaotique. Verset 23, « J'ai regardé la terre et elle était basse, elle était déserte et vide, et les cieux étaient sans lumière. J'ai regardé les montagnes et les basses, elles tremblaient et toutes les collines bougeaient d'avant en arrière. » J'ai regardé et voilà, il n'y avait personne du tout et tous les oiseaux du ciel s'étaient enfuis. Je regardais et voici, le pays fertile était un désert, et toutes les villes étaient en ruine devant l'Éternel, à cause de son ardente colère. Encore une fois, remarquez le langage, une sorte de langage de décréation ou de retour au chaos, l'état pré-Éden. Il n'y a pas de fécondité, il n'y a pas de lumière dans le ciel, les montagnes tremblent et les choses sont vides et vides en attente d'un nouvel acte créateur. Ainsi, le retour à la terre est alors souvent décrit comme une nouvelle création ou un nouvel acte créatif. Ainsi, par exemple, Ésaïe chapitre 51, et tous ces textes que je vais lire dans la littérature prophétique, se situent tous dans le contexte du retour d'Israël dans son pays. Et ce que je veux que vous remarquiez, c'est à quel point ils sont liés à la fois à la promesse faite à Abraham, mais aussi à l'Éden et à la création du chapitre 1 de Genèse. Donc, Ésaïe chapitre 51 et les versets 2 et 3. Je commencerai par le verset 1. 1. Écoutez-moi, vous qui recherchez la justice, vous qui cherchez le Seigneur, regardez le rocher d'où vous avez été taillé et la carrière d'où vous avez été extrait. Regardez Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a enfanté, car il n'était qu'un lorsque je l'ai appelé, mais je l'ai béni et je l'ai rendu multiple. Ainsi, la restauration d'Israël dans son pays est clairement liée à l'alliance abrahamique. Mais maintenant, verset 3 d'Isaïe 51, car le Seigneur consolera Sion, il consolera tous ses lieux déserts et fera de son désert un Éden, de son désert un jardin du Seigneur. On trouvera en elle la joie et l'allégresse, l'action de grâce et la voix du chant. Ainsi, la restauration du pays est considérée comme une restauration du jardin d'Éden, un retour aux conditions semblables à celles de l'Éden décrites dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Encore une fois, le retour d'Israël d'exil au pays est considéré à la fois comme un accomplissement de l'alliance et de la promesse abrahamique, mais aussi la promesse qu'il aurait de nombreux ancêtres et que Dieu les emmènerait dans la terre, il leur donnerait la terre mais aussi liée à l'Éden comme une restauration de l'intention de Dieu pour que l'humanité vive sur la terre, lieu de fécondité et lieu de bénédiction. Il existe également d'autres textes de l'Ancien Testament dans la littérature prophétique qui relient le retour d'Israël au pays et sa restauration à la fois à l'Éden et à la promesse faite à Abraham, l'histoire d'Israël. Dans Ézéchiel chapitre 36, il y a un certain nombre de versets dans cette section qui sont clairement importants non seulement parce qu'ils mentionnent si souvent la terre, mais parce qu'ils les lient tous deux à la promesse abrahamique, mais aussi jusqu'au jardin d'Éden. Ainsi, le chapitre 36 commençant le verset 4, « C'est pourquoi, aux montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel, votre Dieu. » Ainsi parle le Seigneur Dieu aux montagnes et aux collines. L'eau leste bien sûr, et ce que je veux que vous écoutiez, c'est le langage de la fécondité et de l'eau par opposition au gaspillage, à la décréation et au chaos. Ainsi parle le Seigneur Dieu aux montagnes et aux collines. L'eau, bien sûr, se trouve dans les vallées, les lieux désolés et les villes désertes, qui sont devenues une source de pillage et un objet de dérision pour le reste des nations tout autour. C'est pourquoi, dit le Seigneur Dieu, je parle dans ma vive jalousie contre le reste des nations et contre tout Édom, qui, avec une joie sans réserve et un mépris total, ont pris mon pays en leur possession à cause de ses pâturages pour le piller. C'est pourquoi prophétisez sur le pays d'Israël et dites aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau et aux vallées, ainsi parle le Seigneur Dieu, je parle dans ma colère, parce que vous avez subi les insultes des nations. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, je jure que les nations qui sont autour de toi souffriront elles-mêmes d'injures. Mais vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos branches, alors voici le thème de la fécondité, et rapporterez vos fruits à mon peuple Israël, car il reviendra bientôt chez lui. Par conséquent, lié à la restauration du peuple de Dieu. Voyez maintenant, je suis pour vous. Je me tournerai vers toi et tu seras labouré et semé. Et je multiplierai votre population. Et toute la maison d'Israël, toute la ville, sera habitée et les lieux déserts reconstruits. Et je multiplierai sur vous les êtres humains et les animaux. Ils augmenteront et seront fructueux. Et je vous ferai habiter comme autrefois et je vous ferai plus de bien que jamais. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je conduirai vers toi mon peuple Israël, et ils te posséderont et tu seras leur héritage. Ce qui reflète la promesse selon laquelle les descendants d'Abraham hériteraient du pays. Vous ne les abandonnerez plus comme des enfants. Un texte ultérieur au chapitre 36 d'Ézéchiel, verset 28. Encore une fois, tout cela s'inscrit dans le contexte de la restauration après l'exil. Il dit que je vais revenir en arrière et lire le verset 27. Je mettrai mon esprit en vous, ce texte de la Nouvelle Alliance, et je vous ferai suivre mes statuts et veillerai à observer mes ordonnances. Maintenant écoutez ça. Alors vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Ainsi, le langage de l'Alliance est lié à Israël vivant dans son pays, qui est lié à la promesse faite aux ancêtres, à la promesse faite à Abraham. Et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Encore une fois, la formule de l'Alliance. Verset 30, quelques versets plus tard, je rendrai abondants les fruits de l'arbre et les produits des champs. Remarquez le langage de la fécondité qui remonte à l'Éden, afin que vous ne subissiez plus jamais la honte de la famine parmi les nations. Les versets entre 34 et 35 sont les deux derniers versets que je lirai dans cette section. La terre qui était désolée sera cultivée, au lieu d'être la désolation qu'elle était aux yeux de tous ceux qui passaient. Et ils diront, le pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Et les villes désolées et désolées en ruine sont maintenant habitées et fortifiées. Encore une fois, ce langage de la restauration d'Israël dans une terre qui était auparavant celle de la mort, du chaos et de la décréation, qui sera maintenant restaurée à une situation de fécondité et de bénédiction comme elle l'était dans le jardin d'Éden et en accomplissement des promesses que Dieu a faites. Fait à Abraham que son peuple posséderait le pays. Jérémie chapitre 31, juste pour vous montrer que d'autres textes prophétiques incluent le thème de la restauration du pays en termes soit de la promesse faite à Abraham, soit d'Éden. Chapitre 31, Jérémie 31 et verset 12. Encore une fois, remarquez le thème de la restauration et du peuple de Dieu. Ils viendront chanter à haute voix sur les hauteurs de Sion, et ils rayonneront sur la bonté du Seigneur, sur le grain, le moût et l'huile, et sur les petits du petit et du gros bétail. Leur vie sera comme un jardin arrosé et ils ne languiront plus jamais. Ainsi, même Jérémie reprend l'imagerie édénique pour décrire le retour d'Israël dans son pays que Dieu leur a promis comme accomplissement. Encore une fois, non seulement la promesse faite à Abraham mais, en fin de compte, l'intention de Dieu pour l'humanité dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Le dernier texte que je veux examiner, et il y en a bien d'autres, Isaïe en a un certain nombre, mais celui que je veux examiner je veux me concentrer un instant sur le chapitre 65 d'Ésaïe et les versets 17 à 20, sur lesquels Ésaïe anticipe encore une époque maintenant, même au-delà de l'exil, où le peuple de Dieu sera finalement restauré. Et ce que fait Isaïe est intéressant, Isaïe va maintenant anticiper un jour de restauration qui dépassera le retour d'Israël sur la terre de Palestine, mais maintenant il va concevoir la restauration en fin de compte en termes d'une nouvelle création. Ainsi, à partir du chapitre 65 et du verset 17, Isaïe dit, « Car je suis sur le point de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Notez le parallèle avec le chapitre 1 de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Esaïe dit maintenant, Dieu est sur le point de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra pas des premières choses et on ne viendra pas à l'esprit, mais réjouissez-vous et réjouissez-vous pour toujours de ce que je crée, car je suis sur le point de créer Jérusalem pour une joie et son peuple pour un délice. Alors, remarquez le thème de la recréation du peuple et de sa restauration. Je me réjouirai à Jérusalem et je me réjouirai de mon peuple. On n'y entendra plus aucun bruit de pleurs ni aucun cri de détresse. Maintenant, aux deux ou trois prochains versets que je vais lire, je veux que vous y prêtiez à nouveau attention, les chapitres 1 et 2 d'Éden et de la Genèse, le langage créationnel. Verset 20, Isaïe chapitre 65, « Il n'y aura plus d'enfants qui meurent, mais quelques jours, ou de personnes âgées qui ne vivent pas toute sa vie. » Et rappelez-vous qu'une partie de la malédiction devait apporter la mort à l'humanité. Donc, Genèse, à partir du chapitre 5 et des suivants, tout le monde meurt et vous avez ce refrain répété « et un tel est mort et un tel est mort ». Maintenant vous voyez la mort être inversée. Ainsi, il n'y aura pas d'enfant qui ne vivra que quelques jours ni de personne âgée qui ne vivra pas toute sa vie. Car celui qui meurt à 100 ans sera considéré comme un jeune et celui qui n'atteint pas 100 ans sera considéré comme une malédiction. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et mangeront leurs fruits. Encore une fois, rappelant la fécondité de l'Éden. Ils ne bâtiront pas et un autre habitera. Ils ne planteront pas et un autre mangera, comme c'est ce qui s'est passé lorsqu'ils ont été emmenés en exil. Car comme les jours d'un arbre, les jours de mon peuple seront. Et mes élus jouiront longtemps des œuvres de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et n'auront pas d'enfants pour le malheur. Car ils seront une descendance bénie du Seigneur et leurs descendants aussi. Alors, remarquez, Ésaïe anticipe une période de restauration qui dépasse de loin ce qui s'est produit lorsqu'Israël a été ramené en exil. Autrement dit, il anticipe une nouvelle création calquée sur le premier acte créateur du chapitre 1 de Genèse. Et encore une fois, remarquez l'imagerie de l'Éden selon laquelle ce sera un temps de fécondité, un temps pour renverser la malédiction de la mort, un temps de fécondité. Et quelle autre chose intéressante au verset 22, où il est dit, « Car comme les jours de l'arbre seront les jours de mon peuple », la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, dit en fait, « Car comme les jours de l'arbre de vie ». Qui est la formulation exacte que vous trouvez dans la Genèse, l'arbre de vie qui se trouve au centre du jardin. Il est donc clair qu'Ésaïe anticipe une époque de restauration qui sera un retour aux conditions des chapitres 1 et 2 de Genèse et de la première création et du jardin d'Éden. Ainsi, ce lien entre la terre de Palestine et la restauration du peuple de Dieu dans sa terre et dans l'Éden suggère que la restauration d'Israël sur sa terre est en fin de compte le moyen par lequel le cosmos tout entier sera restauré et recréé dans une toute nouvelle création. Ainsi, nous avons vu que la littérature prophétique, en poursuivant ce scénario, touche au thème dominant du peuple de Dieu, que les prophètes anticipaient une époque où, après l'exil, Dieu restaurerait le peuple dans un nouvel acte créateur. Il les créera comme son peuple. Il entrera dans une relation d'alliance avec eux en établissant une toute nouvelle alliance. Et il les restaurera également dans leur pays en accomplissement de la promesse faite à Abraham, mais finalement en accomplissement de l'intention de Dieu pour l'Éden et pour la première création qui transpirera finalement dans un nouvel acte créateur, une toute nouvelle création qui restaurera les conditions de Genèse 1 et 2 et les conditions du jardin d'Éden, l'intention originelle de Dieu pour son peuple. Maintenant, la mention du jardin d'Éden et de l'imagerie terrestre nous amène naturellement au thème suivant, à savoir le thème du temple ou du jardin. Rappelez-vous que nous avons dit dans Genèse chapitre 1 et 2, le jardin d'Éden était considéré comme un sanctuaire, un lieu où Dieu demeurait avec son peuple, un lieu de repos de la présence de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève sont expulsés et exilés du jardin, lieu de bénédiction et de présence de Dieu, Dieu choisit alors Abraham et crée alors un nouveau peuple, le peuple d'Israël, avec lequel il entrera dans une relation d'alliance. Et cela tient en partie au fait qu'Israël doit construire un tabernacle et un temple comme lieu de demeure de Dieu, comme lieu où la présence de Dieu reposera avec son peuple. Il est intéressant de noter cependant que nous avons noté un certain nombre de liens entre le temple et le jardin d'Éden, de sorte que le temple est une sorte de jardin d'Éden miniature. Le temple est un microcosme de ce que Dieu entend englober à terme le cosmos entier avec la gloire de Dieu et sa présence imprégnant toute sa création. Les prophètes anticipent aussi naturellement un moment où Israël sera de retour dans le pays dans une relation d'alliance avec Dieu et où les conditions de la création et de l'Éden seront restaurées. La présence de Dieu sera également là au milieu de son peuple sous la forme d'un temple restauré ou reconstruit. Et tant de textes prophétiques anticipent la restauration de la demeure de Dieu avec son peuple ou plus spécifiquement Dieu construisant ou construisant un temple où il habitera avec son peuple. Nous avons déjà regardé Zacharie chapitre 8, verset 8. Ceci est souvent lié à la formule de l'Alliance, « Je serai votre Dieu, ils seront mon peuple ». Cela vient dans le récit de la promesse de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Plus loin dans Zacharie chapitre 14, le tout dernier chapitre de Zacharie, Dieu exprime son intention de s'installer avec son peuple. La ville sera appelée le lieu où Dieu habite. La description la plus complète de l'articulation de la restauration du temple de Dieu en tant que demeure avec son peuple se trouve probablement dans Ézéchiel, chapitre 40 à chapitre 48. Une section assez longue où, lorsque vous la lisez, la majeure partie est consacrée à une description assez détaillée. Du temple et de ses dimensions et de sa composition et de sa construction et de sa fonction, et de ce qui va se passer là-bas alors que la présence de Dieu vient une fois de plus se reposer avec son peuple. Ézéchiel, chapitre 40 à 48. Mais ce que je veux faire, c'est me concentrer sur quelques textes intéressants. Et clairement, bien qu'il y ait des différences, la description et les mesures du temple et la description du temple dans Ézéchiel 40 à 48 rappellent clairement les descriptions précédentes, les descriptions détaillées du temple dans un roi et du tabernacle dans l'Exode. mais cela n'a pas seulement des liens avec le temple d'Israël, de sorte qu'Ézéchiel dit, dans un sens, que la promesse de Dieu de demeurer avec son peuple Israël est maintenant en train de s'accomplir. Ce que je veux que vous remarquiez, c'est que cela a également des liens clairs avec le jardin d'Éden, avec l'espace divin ou le sanctuaire des chapitres 1 et 2 de la Genèse. Ainsi, par exemple, le chapitre 43 d'Ézéchiel et le verset 1. La signification de cette section est juste après la description détaillée de la composition et de la construction du temple et de ce à quoi il va ressembler et de toutes ses différentes facettes et des cours, etc., et la description du lieu très saint et du mobilier, toutes choses on s'y attend dans la description du temple. Quand cela est finalement fait, au chapitre 43 et verset 1, et en passant, Ézéchiel 40 à 48 est une sorte de vision de type apocalyptique. Ézéchiel voit cela dans une vision. Il a en fait été transporté à travers une expérience visionnaire par un être céleste et lui a montré ces choses. Mais ensuite, à partir du chapitre 43 et du verset 1, puis lui, cet être angélique qui guide Ézéchiel dans ce genre de voyage visionnaire, il m'a amené à la porte tournée vers l'est, et là arrivait la gloire du Dieu d'Israël. De l'est. Le bruit était comme le bruit des eaux puissantes et la terre brillait de sa gloire. Alors maintenant, dans les chapitres 40 à 42, maintenant que le temple a été construit et décrit, il est maintenant prêt à ce que la gloire de Dieu repose à nouveau dessus, de la même manière que dans les chapitres 1 et 2 de Genèse, une fois la création construite, la création temple, maintenant Dieu peut se reposer, sa présence peut reposer dans son temple. Alors maintenant, la présence de Dieu, sa gloire vient à nouveau habiter et se reposer dans son temple. Mais ce à quoi je veux prêter attention, une caractéristique intéressante à laquelle je veux que vous prêtiez attention est la notation directionnelle ici selon laquelle il est amené à la porte du temple qui fait face à l'est et que la présence de Dieu vient de l'est pour entrer dans le temple. Cela rappelle, si vous vous en souvenez curieusement, le fait que, et je pense que c'est intentionnel, le fait que dans le chapitre 3 de Genèse, lorsqu'Adam et Ève ont été expulsés du jardin, ils ont été expulsés de l'entrée et deux êtres angéliques étaient postés, deux chérubins postés à cette entrée, à l'entrée et, pour garder la présence de Dieu. Maintenant, la présence de Dieu arrive à nouveau par la porte et, l'entrée et, pour s'installer dans son temple. De toute évidence, cela suggère encore une fois que le jardin d'Éden était censé être un temple, une demeure de Dieu. Alors maintenant, la gloire de Dieu, sa présence, s'installe dans son temple à l'est, de la même manière qu'Adam et Ève furent expulsés de l'entrée et du temple. Il existe d'autres textes dans Ézéchiel qui suggèrent que le jardin ou le temple est censé refléter le jardin d'Éden. Ainsi par exemple, au chapitre 47, puis lui, encore une fois l'être angélique qui guidait Ézéchiel dans cette visite visionnaire du temple, il m'a ramené à l'entrée du temple et là, l'eau coulait du dessous du seuil du temple vers le à l'est, car le temple était tourné vers l'est. Et l'eau coulait du dessous de l'extrémité sud du seuil du temple, au sud de l'autel. Alors remarquez ce langage de l'eau, une rivière qui coule du temple, tout comme elle sortait d'Éden, dans Genèse chapitre 2. Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a conduit à l'extérieur jusqu'à la porte extérieure qui elle faisait face à l'est, et l'eau sortait du côté sud. Et encore une fois, à mesure qu'il marche, à mesure qu'il fait ce tour, l'eau devient de plus en plus profonde et la rivière devient plus large, de sorte que finalement, au verset 5, il ne peut même plus la traverser. Verset 7, et en revenant, je vis au bord de la rivière un grand nombre d'arbres d'un côté et de l'autre. Il m'a dit, cette eau coule vers la région orientale et descend dans la Araba, et lorsqu'elle entrera dans la mer d'eau stagnante, les eaux deviendront fraîches. Partout où passe la rivière, toutes les créatures vivantes qui pullulent en vivront. Et il y aura beaucoup de poissons une fois que ces eaux y parviendront. Bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui aiment pêcher. Cela deviendra frais et tout vivra là où passe la rivière. Alors, remarquez à nouveau le retour à des conditions semblables à celles d'Éden. Les arbres qui donnent des fruits, l'eau qui donne la vie sauvage, sont clairement une anticipation et un reflet du jardin d'Éden. Verset 12, le dernier verset de cette section que je veux lire, sur les rives des deux côtés de la rivière pousseront toutes sortes d'arbres pour se nourrir. Leurs feuilles ne se faneront pas et leurs fruits ne cesseront pas, mais ils porteront des fruits frais chaque mois, car l'eau pour eux coule du sanctuaire. Leurs fruits seront destinés à la nourriture et leurs feuilles à la guérison. Ainsi, le temple de Dieu, le lieu de la présence de Dieu, est considéré comme le canal de la bénédiction et de la vie dans toute la création, dans tout le pays. La restauration du temple démontre clairement le retour au chapitre 1 et 2 de la Genèse et aux conditions semblables à celles d'Éden, alors que Dieu réalise maintenant son intention originelle selon laquelle l'humanité habite avec son peuple dans une terre qui est un environnement qui leur convient, une terre qui est une terre fertile et remplie de la présence et de la gloire de Dieu, tout comme cela était censé être dans l'intention originale de Dieu pour la création dans les chapitres 1 et 2 de Genèse. Le dernier thème que je veux aborder est celui de la royauté. Nous avons dit que dans l'histoire d'Israël, même si Israël devait être un royaume de prêtres, selon l'Exode, le mandat de gouverner d'Israël devait avant tout être rempli par l'intermédiaire du roi Davidique. Ainsi, Dieu choisit David comme roi et Dieu fait une promesse à David comme moyen par lequel Dieu établira sa domination sur toute la création. C'est finalement grâce au roi Davidique qui régnait sur Israël dans son pays. C'est finalement à travers le roi Davidique que le règne de Dieu et sa souveraineté se répandraient dans toute la création, conformément au chapitre 1 et 2 de la Genèse. Nous avons dit que le point de départ était le chapitre 7 de 2 Samuel. Dans 2 Samuel 7, Dieu promet un trône sans fin à David, qui sert de base à tout le reste des anticipations prophétiques d'une monarchie davidique restaurée. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le fait que David devait construire une maison, même si ce serait son ancêtre qui construirait la maison, même l'attente qu'un ancêtre de David construise une maison montre le lien entre le temple et aussi le roi davidique comme bien. Déjà dans des textes tels que le chapitre 2 du psaume, nous avons vu que le règne du roi Davidique devait finalement être universel, toujours en accomplissement de Genèse 1 et 2, que le règne de Dieu deviendrait coextensif dans toute la création, que l'humanité serait le vice-président de Dieu. Régent pour représenter et répandre son règne dans toute la création. Dès le psaume 2, nous constatons que telle est l'intention du roi Davidique. Mais encore une fois, je veux simplement examiner une poignée de textes prophétiques qui anticipent qu'au moment de la restauration, lorsque Dieu restaurera son peuple dans le pays, établira son temple, recrée toutes choses et établira une nouvelle alliance avec son peuple, cela inclut aussi clairement le rétablissement du roi Davidique, et encore une fois, Dieu gouvernera son peuple en rétablissant sa promesse faite à David. Ainsi, par exemple, dans Isaïe chapitre 55, « Voici, tous ceux qui ont soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. » Ceci est un appel à Israël tel qu'il est, à la lumière de cette anticipation et de cette attente d'une restauration après l'exil. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui n'est pas du pain ou du travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoute-moi attentivement, mange ce qui est bon et savoure une nourriture riche. Inclinez votre oreille et venez à moi, écoutez afin que vous viviez. Je ferai avec toi une alliance éternelle, mon amour ferme et sûr pour David. Régnerai sur Israël conformément à l'accomplissement de Genèse 1 et 2, et à l'intention de Dieu que sa souveraineté et sa royauté soient reconnues sur toute la terre. Jérémie chapitre 33 et verset 15, encore une fois, un autre texte anticipant la restauration après l'exil. Donc chapitre 33 et verset 15, je vais revenir en arrière et lire le verset 14, « Les jours viennent sûrement, dit le Seigneur, où j'accomplirai la promesse que j'ai faite à la maison d'Israël et à la maison de Juda. » Et ici c'est, en ces jours-là et en ce temps-là, je ferai germer un rameau juste pour David, et il exécutera la justice et la justice dans le pays. Ézéchiel chapitre 37 que nous avons déjà lu, chapitre 36 et 37, contiennent tous ces thèmes de restauration du peuple de Dieu, de nouvelle alliance, de nouvelle création, de restauration du pays et de restauration du temple dans les chapitres 40 à 48. Maintenant, remarquez le chapitre 37 et les versets entre 24 et 25. Mon serviteur David sera leur roi sur Israël restauré, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances et veilleront à observer mes statuts. Ils vivront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et dans lequel habitent tes ancêtres. Eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants y vivront pour toujours, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Il est donc clair que la restauration d'Israël dans le pays est liée au fait que David règne sur eux en tant que roi. Encore une fois, en accomplissement de Genèse 1 et 2, où le règne de Dieu s'étendrait sur toute la terre par l'intermédiaire de ses vice-régents. Maintenant, ce vice-régent est David, qui étendra le règne de Dieu sur la nation d'Israël. Pourtant, il existe encore des indices tout au long de l'Ancien Testament selon lesquels ce règne de David doit être universel, au-delà de la Palestine ou de la nation d'Israël, mais qu'il sera finalement universel. Nous avons déjà vu cela dans le chapitre 2 du psaume, où David doit recevoir les extrémités de la terre comme sa possession et toutes les nations. Mais il existe d'autres indices. Par exemple, Daniel chapitre 7 et verset 14, qui encore une fois est une sorte de vision apocalyptique de Daniel. Et dans Daniel, chapitre 7 et verset 14, Daniel, tout d'abord, dans la première partie du chapitre 7, a une vision de ses bêtes, ses quatre bêtes, et elles représentent chacune des royaumes. Mais cette vision de ces quatre figures bestiales est finalement remplacée par la vision d'un fils de l'homme. Et je vais lire le verset 13 puis le verset 14 de Daniel 7. Pendant que je regardais dans les visions nocturnes, j'en ai vu un semblable à un fils d'homme ou à un être humain, ce qui contraste avec les quatre bêtes, venant avec les nuées du ciel. Et il vint vers l'ancien et se présenta devant lui. À lui, le fils de l'homme reçut la domination, la gloire et la royauté, et tous les peuples, nations et langues devaient le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Sa royauté ne sera jamais détruite. Alors remarquez ce fils de l'homme qui a des résonances avec les thèmes davidiques et la promesse de l'alliance davidique faite à David, et qui sera repris plus tard, évidemment, dans le Nouveau Testament. Ce fils de l'homme reçoit une domination ou une royauté universelle, encore une fois, en accomplissement de la promesse de Genèse 1 et 2, selon laquelle les vice-régents de Dieu régneraient en tant que son représentant sur toute la création. Maintenant, ce fils de l'homme prend sa place comme vice-régent de Dieu, à qui est désormais donnée la domination, la gloire et la royauté sur toutes les nations. Et cette domination sera éternelle. Peut-être même que le fait qu'il ait maintenant la domination sur ces quatre bêtes reflète peut-être aussi le langage de la création de la domination d'Adam sur la bête des champs et sur la bête de la création. Ainsi, le chapitre 7 de Daniel reprend le thème de la domination, de la royauté et du pouvoir trouvé dans la littérature prophétique en relation avec David, mais l'étend maintenant à l'ensemble de la création. Dans les chapitres 9 et 10 de Zacharie, nous lisons également à propos de la domination universelle lorsque Zacharie, encore une fois, anticipant un temps de restauration, « Réjouis-toi grandement, ô fille de Sion !» Crie à haute voix, ô fille Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, triomphant et victorieux. Humble et monté sur un âne et un poulain, le petit d'une ânesse. Il retranchera le char d'Éphraïm et le cheval de guerre de Jérusalem, et l'arc de combat sera retranché. Il commandera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et même Ézéchiel chapitre 14 et verset 9, le tout dernier chapitre se termine, « Je suis désolé, Zacharie se termine, le chapitre 14 verset 9 se termine. » En référence au Seigneur, il sera roi sur toute la terre. C'est donc à travers le roi davidique, que finalement la royauté de Dieu, en tant que vice-régent de Dieu, la royauté de Dieu et son règne seront répandus et réalisés dans toute la création. Rappelez-vous qu'à cause du péché, la création est désormais le royaume de Satan, et les êtres humains sous le pouvoir de Satan irriguent leur domination et le font au mépris du vrai roi. Mais maintenant, nous voyons une situation dans laquelle Dieu reprendra la terre comme son véritable royaume et en fera son royaume, et il la gouvernera par l'intermédiaire de son vice-régent David en rétablissant les conditions de création dans les chapitres 1 et 2 de Genèse. Lorsque cela arrive, le texte prophétique démontre alors que lorsqu'Israël sera restauré, il sera alors une lumière pour toutes les nations. Une fois que le peuple de Dieu sera restauré, conformément à la promesse faite à Abraham et finalement à l'accomplissement de toute la création dans Genèse 1 et 2, toutes les nations reconnaîtront désormais la souveraineté et la gloire de Dieu. Ainsi, les prophètes ont anticipé le temps dans le cadre de la suite et du mouvement du scénario, les prophètes ont anticipé le temps qui, dans l'accomplissement de Genèse 1 et 2, mais aussi dans l'accomplissement de l'histoire d'Israël, ont anticipé le temps où Israël sera restauré, là où l'alliance sera rétablie avec Israël, Israël sera ramené au pays en accomplissement de l'intention de Dieu dans la création et sera ramené au pays, un nouvel Éden, un lieu de fécondité et de bénédiction. Le roi Davidique les gouvernera et répandra le règne de Dieu dans toute la création. Le temple sera restauré afin que Dieu puisse désormais habiter au milieu d'eux. Une fois que cela se produira, les bénédictions du salut pourront désormais affluer sur toutes les nations. Alors, rappelez-vous, Dieu doit faire face à deux problèmes, le problème du péché d'Israël et, en fin de compte, le problème de toute la création. Ainsi, Dieu alors, quand il rétablit Israël dans son pays avec un roi davidique régnant sur eux dans une nouvelle création, un nouvel Éden, un lieu de bénédiction, dans une nouvelle relation d'alliance entre Dieu et Dieu habitant à nouveau avec son peuple dans le temple. Alors la bénédiction pourra affluer sur toutes les nations. La création entière sera renouvelée en accomplissement de Genèse 1 et 2, en accomplissement de l'intention originelle de Dieu pour son peuple et pour sa création des chapitres 1 et 2 de Genèse. Ainsi les prophètes nous laissent alors avec la question, ils laissent toujours, l'histoire est encore incomplète. Comment cette attente va-t-elle se réaliser? Comment toute l'attente d'un peuple restauré de retour dans son pays, d'une nouvelle création, d'un nouvel Éden, avec le vice-régent de Dieu régnant sur eux, étendant son règne à travers toute la création, avec le temple reconstruit de Dieu habitant au milieu d'eux, dans une relation d'alliance avec Dieu, comment cette attente va-t-elle se réaliser? Comment Dieu va-t-il accomplir son dessein? Comment va-t-il écrire la conclusion du scénario? Eh bien, nous devons attendre le Nouveau Testament pour voir comment la conclusion de l'histoire sera écrite. Et dans les prochaines conférences que nous aurons sur le scénario, nous nous concentrerons sur le Nouveau Testament et sur la façon dont l'attente prophétique sur la façon dont l'histoire se terminera, comment cela va maintenant se réaliser. Il s'agissait de la troisième conférence sur six sur le scénario de la Bible donnée par le Dr Dave Matthewson.